Chapitre 25. De Chartres était venu saluer les deux voyageuses dans le wagon. Séparée de lui, Thérèse sentit ce qu'il était pour elle. Il lui avait donné de la vie un goût nouveau, délicieux, et si vif, si réel, qu'elle le sentait sur ses lèvres. Elle vivait sous un charme, dans le rêve de le revoir. Étonnée et douce, quand Madame Marmet, le long du voyage, lui disait « Je crois que nous passons la frontière » ou « Les rosiers fleurissent au bord de la mer ». Elle gardait cette joie intérieure lorsqu'après une nuit d'hôtel à Marseille, elle vit les gris oliviers dans les champs pierreux, puis les mûriers, le profil lointain du mont Pilate, et le Rhône et Lyon, et puis les paysages familiers, les arbres élevant en bouquet leurs cimes, naguère sombres et violettes, maintenant revêtues de vert tendre, les petits tapis rayés des cultures aux pentes des collines et les lignes de peupliers sur le bord des rivières. Le voyage coulait égal pour elle. Elle goûtait la plénitude des heures vécues et l'étonnement des joies profondes. Et c'est avec un sourire de dormeuses éveillées qu'à l'arrêt du train, sous le jour livide de la gare, elle accueillit son mari, heureux de la retrouver. En embrassant la bonne dame Marmet, elle lui dit qu'elle la remerciait de tout son cœur. Et vraiment, elle rendait grâce à toute chose, comme le Saint-François de M. Choulette. Au fond du coupé, qui suivait les quais dans la poussière lumineuse du couchant, elle écouta sans impatience son mari, lui confiant ses succès de tribune, les intentions de son groupe parlementaire, ses projets, ses espérances et la nécessité de donner deux ou trois grandes idées politiques. Elle ferma les yeux pour mieux songer. Elle se dit « J'aurai une lettre demain et je le reverrai dans 8 jours. » Quand le coupé passa sur le pont, elle regarda cette eau qui roulait des flammes, ses arches enfumées, ses lignes de platane, les têtes fleuries des marronniers sur les quinconces du cours La Reine. Tous ces aspects familiers se revêtaient pour elle d'une magnifique nouveauté. Il lui semblait que son amour avait recoloré l'univers, et elle se demandait si les arbres, les pierres la reconnaissaient. Elle songeait « Comment se fait-il que mon silence, mes yeux, toute ma chair et le ciel et la terre ne crient pas mon secret ?» M. Martin Bellem, pensant qu'elle était un peu fatiguée, lui conseilla le repos. Et la nuit, enfermée dans sa chambre au milieu du grand silence où elle entendait les palpitations de son âme, elle écrivit à l'absent une lettre pleine de ces paroles semblables aux fleurs dans leur perpétuelle nouveauté. « Je t'aime, je t'attends, je suis heureuse, je te sens près de moi, il n'y a que toi et moi au monde. Je vois de ma fenêtre une étoile un peu bleue qui tremble. Je la regarde en pensant que tu la vois de Florence. J'ai mis sur ma table la petite cuillère au lys rouge. Viens, de loin tu me brûles, viens !» Et elle trouvait ainsi, toute fraîche dans son âme, les sensations, les images éternelles. Pendant une semaine, elle vécut d'une vie tout intérieure, sentant au-dedans d'elle la douce chaleur qui lui restait des jours de la Via Alfieri, respirant sur elle les baisers reçus et s'aimant d'être aimée. Elle mit un soin délicat, un goût attentif à se faire des toilettes neuves. C'est à elle aussi qu'elle plaisait, qu'elle voulait plaire. Follement inquiète lorsqu'il n'y avait rien pour elle à la poste, tremblante et joyeuse lorsqu'elle recevait, à travers la grille, par le petit guichet, une lettre où elle reconnaissait la large écriture ornée de son ami, elle dévorait ses souvenirs, ses désirs et ses espérances. Ainsi les heures, déchirées, froissées, brûlées, s'anéantirent rapidement. Seul, le matin du jour où il devait venir, lui parut d'une longueur odieuse. Elle était à la gare avant l'arrivée du train. Un retard était signalé, elle en fut accablée. Optimiste dans ses projets et mettant de force, comme son père, le sort du parti de la volonté, ce retard qu'elle n'avait pas prévu lui semblait une trahison. Le jour gris, que durant trois quarts d'heure filtraient les vitres du hall, tombait sur elle comme les grains d'un sablier immense qui lui mesurait les minutes perdues pour le bonheur. Elle se désolait quand, dans la lumière rouge du soleil déjà bas, elle vit la machine du rapide s'arrêter, monstrueuse et docile, sur le quai de l'arrivée, et dans la foule des voyageurs s'échappant des voitures, Jacques, qui, grand et mince, venait à elle. Il la regardait avec cette sorte de joie sombre et violente qu'elle lui connaissait. Il dit « Enfin, vous voilà. Oh, je craignais de mourir avant de vous revoir. Vous ne savez pas, je ne savais pas moi-même quelle torture c'est que de vivre une semaine loin de vous. Je suis retourné au petit pavillon de la Via Alfieri, dans la chambre, tu sais, devant le vieux pastel. Oh, j'ai crié d'amour et de rage. » Elle le regarda, contente. « Et moi, tu ne penses pas que je t'appelais, que je te voulais, que seul je tendais les bras vers toi ? J'avais caché tes lettres dans le chiffonnier où sont mes bijoux. Je les relisais la nuit. C'était délicieux, mais c'était imprudent. Tes lettres, c'était toi, trop et pas assez. » Ils traversèrent la cour où roulaient les fiacres chargés de mal. Elle lui demanda s'il ne prenait pas une voiture. Il ne répondit pas. Il semblait ne pas entendre. Elle reprit. « Je suis allé voir votre maison. Je n'ai pas osé entrer. J'ai regardé par la grille et j'ai aperçu les fenêtres à meneaux, dans des rosiers au fond d'une cour, derrière un platane. Et j'ai dit, c'est là ? Oh, jamais je ne m'étais senti si ému. » Il ne l'écoutait plus, il ne la regardait plus. Il traversa rapidement avec elle la chaussée pavée et gagna par un étroit escalier une rue déserte qui longeait en contrebas la cour de la gare. Là s'élevait, entre des chantiers de bois et des magasins de charbon, un hôtel avec restaurant au rez-de-chaussée et des tables dressées sur le trottoir. On voyait, sous l'enseigne peinte, des rideaux blancs aux fenêtres. De Chartres s'arrêta devant la petite porte et poussa Thérèse dans l'allée obscure. Elle demanda « Où m'amenez-vous ? Mais quelle heure est-il ? Il faut que je sois rentré à 7h30. Nous sommes fous !» Et dans une chambre à carreaux rouges, meublée d'un lit de noyer, avec une carpette représentant un lion, ils goûtèrent un moment d'oubli divin. Elle le dit en descendant l'escalier. « Jacques, mon ami, nous sommes trop heureux, nous volons la vie !» Chapitre 26. Un fiacre la conduisit le lendemain jusqu'à une rue populeuse et pourtant déserte, à moitié triste, à moitié gaie, avec des murs de jardin dans l'intervalle des maisons neuves, et s'arrêta au point où la chaussée va passer sous l'arcade voûtée d'un hôtel Régence, couvert maintenant de poussière et d'oubli, qui par fantaisie se met au travers de la rue. Ça et là, des branches vertes s'allongeant entre les pierres, égaient ce coin de ville, et Thérèse, en sonnant à la petite porte, vit dans la perspective bornée des maisons une poulie sur une lucarne et une grande clé dorée, enseigne d'un serrurier. Son regard s'emplissait de ces aspects nouveaux pour elle et déjà familiers. Des pigeons volaient au-dessus de sa tête. Elle entendait glousser des poules. Un domestique à moustache, d'aspect militaire et rural, ouvrit la porte. Elle se trouva dans une cour sablée, qu'ombrageait un platane et sur laquelle, à gauche, au ras de la rue, était la loge avec des cages de serins aux fenêtres. De ce côté se dressait, sous un treillis vert, le pignon de la maison voisine. Un atelier de sculpteur y adossait sa charpente vitrée, qui laissait voir des figures de plâtre endormies dans la poussière. À droite, le mur peu élevé qui fermait la cour portait scellés des débris précieux de frises, des fûts rompus de colonnettes. Au fond, l'hôtel, pas bien grand, ouvrait les 6 fenêtres à meneaux de sa façade, cachées à demi par le lierre et les rosiers. Philippe de Chartres, épris de l'architecture française du XVe siècle, avait reproduit là, très savamment, les caractères d'une habitation privée du temps de Louis XII. Cette maison, commencée au milieu du Second Empire, n'avait point été terminée. Le bâtisseur de tant de châteaux était mort sans pouvoir achever sa bicoque. Il valait mieux qu'il en fût ainsi. Conçu dans une manière qui avait alors sa distinction et son prix, mais qui semble aujourd'hui banale et démodée, ayant perdu peu à peu son large cadre de jardin, resserré maintenant entre les murs des hautes bâtisses, le petit hôtel de Philippe de Chartres, par la rudesse de ses pierres brutes qui s'effritaient dans l'attente du praticien mort peut-être depuis 20 ans, par la lourdeur naïve de ses 3 lucarnes à peine dégrossies, par la simplicité du toit que la veuve de l'architecte avait fait couvrir à peu de frais, par tous les bonheurs de l'inachevé et de l'involontaire, corrigeait la disgrâce de son ancienneté trop neuve, de son romantisme archéologique, et s'accordait avec l'humilité d'un quartier enlaidi par le progrès de la population. Enfin, sous son apparence de ruine et dans sa draperie verte, ce petit hôtel avait son charme. Soudainement et d'instinct, Thérèse découvrait d'autres harmonies. Dans cette négligence élégante qui s'étendait des murailles recouvertes de lierre aux vitres assombries de l'atelier et jusqu'aux platanes penchés dont les corps jaugeaient de ses écailles l'herbe folle de la cour, elle devinait l'âme du maître, nonchalante, inhabile à conserver, traînant la mélancolie des passionnés. Elle eut dans sa joie un serrement de cœur à reconnaître cette indifférence où son ami laissait autour de lui les choses. Elle y trouvait une sorte de grâce et de noblesse, mais aussi un esprit de détachement, contraire à sa propre nature, tout opposé à l'âme intéressée et soigneuse des Montessui. Tout de suite, elle songea que, sans gâter la douceur pensive de ce coin sauvage, elle y porterait son activité ordonnée, ferait sabler l'allée et, dans l'angle où venait un peu de soleil, mettrait la gaieté des fleurs. Elle regarda avec sympathie une statue venue là de quelque parc dévasté, une flore couchée à terre, toute rongée d'une mousse noire, et ses 2 bras gisant à son côté. Elle rêva de la relever bientôt, d'en faire un motif pour la fontaine dont elle voyait l'eau s'égoutter tristement dans le seau qui lui tenait lieu de vasque. De Chartres, qui depuis 1 heure épiait sa venue, joyeux, inquiet encore, tout tremblant de son bonheur agité, descendait les degrés du perron. Dans l'ombre fraîche du vestibule, où se devinait confusément la splendeur sévère des bronzes et des marbres, elle s'arrêta, étourdie par les battements de son cœur, qui sonnait à toute volée dans sa poitrine. Il la pressa contre lui et lui donna de longs baisers. Elle l'entendit à travers le bourdonnement de ses tempes qui lui rappelait les brusques délices de la veille. Elle revit le lion de l'Atlas sur la descente de lit et elle rendit à Jacques ses baisers avec une lenteur délicieuse. Il la conduisit par un anguleux escalier de bois dans la vaste salle qui servait autrefois de cabinet de travail à son père et où lui-même il dessinait, modelait et lisait surtout, aimant la lecture comme un opium et faisant des rêves sur la page inachevée. Des tapisseries gothiques, très pâles, laissant deviner, dans une forêt merveilleuse, une dame coiffée du Hennin, avec une licorne couchée à ses pieds sur l'herbe fleurie, montait au-dessus des armoires jusqu'aux solives peintes du plafond. Il l'amena devant un divan large et bas, chargé de coussins, que recouvraient de leurs lambeaux somptueux des chapes espagnoles et des dalmatiques byzantines. Mais elle s'assit dans un fauteuil. « Oh, vous voilà, le monde peut finir !» Elle répondit. « Je pensais à la fin du monde autrefois. Je ne la craignais pas. Monsieur Lagrange me l'avait promise par galanterie, et je l'attendais. Quand je ne vous connaissais pas, oh, je m'ennuyais tant !» Elle regarda autour d'elle les tables chargées de vases et de statuettes, les tapisseries, la foule confuse et splendide des armes, des émaux, des marbres, des peintures et des livres anciens. « Vous avez de belles choses. »« Oh, pour la plupart, elles viennent de mon père, qui vivait dans l'âge d'or des collections. Ces histoires de la licorne, dont la suite complète est à Cluny, mon père les a trouvées en 1851 dans une auberge de Mains-sur-Yèvre. » Mais elle, curieuse et déçue, « Mais je ne vois rien de vous. Pas une statue, pas un bas-relief, pas une de ces cires si recherchées en Angleterre, pas une figurine, ni une plaque, ni une médaille. Oh, si vous croyez que j'aurais plaisir à vivre au milieu de mes œuvres, je les connais trop, mes figures. Elles m'ennuient. Ce qui n'a pas de secret n'a pas de charme. » Elle le regarda avec un dépit affecté. Oh, « Vous ne m'aviez pas dit qu'on avait plus de charme pour vous quand on n'avait plus de secret ?» Il lui prit la taille. « Ah, ce qui n'est que trop mystérieux. Et tu restes pour moi, ma bien-aimée, une énigme dont le sens inconnu contient les délices de la vie et les affres de la mort. Ne crains pas de te donner. » Je te désirerai toujours et je t'ignorerai toujours. Est-ce qu'on possède jamais ce qu'on aime? Est-ce que les baisers, les caresses sont autre chose que l'effort d'un désespoir délicieux? Quand je te tiens embrassé, je te cherche encore. Et je ne t'ai jamais, puisque je te veux toujours, puisque en toi je veux l'impossible et l'infini. Ce que tu es du diable, tu ne le saurais jamais. Vois-tu, pour avoir modelé quelques méchantes figures, je ne suis pas un sculpteur. Je suis plutôt une espèce de poète et de philosophe qui cherche dans la nature des sujets d'inquiétude et de tourment. Le sentiment de la forme ne me suffit pas. Mes confrères se moquent de moi parce que je ne les égale pas en simplicité. Ils ont raison. Et cet animal de choulette a raison aussi, quand il veut que nous vivions sans penser ni désirer. Notre ami, le cordonnier de Santa Maria Novella, qui ne sait rien du tout ce qui rendrait injuste et malheureux, est un maître dans l'art de vivre. Je devrais t'aimer naïvement, sans cette espèce de métaphysique passionnelle qui me rend absurde et méchant. Il n'y a de bon que d'ignorer et d'oublier. Viens, viens, j'ai trop cruellement pensé à toi dans les tortures de l'absence. Viens, ma bien-aimée. Il faut que je t'oublie toi-même en toi. C'est en toi seulement que je peux t'oublier et me perdre. Il la prit dans ses bras et, relevant la voilette, lui mit des baisers sur la bouche. Un peu effarouchée dans cette vaste salle inconnue, comme gênée par le regard des choses étranges, elle tira le tulle noir jusqu'à son menton. « Ici, mais vous n'y pensez pas ?» Il lui dit qu'ils étaient seuls. « Seul, mais l'homme aux terribles moustaches qui m'a ouvert la porte ?» Il sourit. « Oh, c'est Fuselier, l'ancien domestique de mon père. Oh, sa femme et lui composent toute ma maison. Soyez tranquilles. Ils se tiennent dans la loge, fidèles et hargneux. Vous verrez, Madame Fuselier, elle est familière, je vous avertis. Mais mon ami, pourquoi Monsieur Fuselier, Suisse et maître d'hôtel, a-t-il des moustaches de tartare? Ma chérie, la nature les lui a données, et je les lui laisse volontiers. Je lui sais gré d'avoir l'air d'un ancien sergent-major devenu pépiniériste, et de me donner ainsi l'illusion qu'il est mon voisin de campagne. Assise au coin du divan, il l'attira sur ses genoux, lui donna des baisers qu'elle lui rendit. Elle se releva vivement. « Montrez-moi les autres pièces. Je suis curieuse, je veux tout voir. » Il la conduisit au second étage. Des aquarelles de Philippe de Chartres couvraient les murs du corridor. Il ouvrit une porte et la fit entrer dans une chambre meublée de palissandre. C'était la chambre de sa mère. Il la gardait intacte dans son passé d'hier, le seul passé qui nous touche vraiment et nous attriste. Inhabitée depuis 9 ans, la chambre n'avait pas l'air encore résignée à la solitude. L'armoire à glace épiait le regard de la vieille dame, et sur la pendule d'onyx, une Sapho pensive s'ennuyait de ne plus entendre le bruit du balancier. Il y avait 2 portraits au mur. L'un de Ricard représentait Philippe de Chartres, très pâle, la chevelure agitée, l'œil noyé dans un rêve romantique, la bouche pleine d'éloquence et de bonté. L'autre, peint d'une main moins inquiète, faisait voir une dame entre 2 âges, presque belle dans sa maigreur ardente. C'était Madame Philippe de Chartres. « La chambre de ma pauvre maman est comme moi, » dit Jacques. « Elle se souvient. » « Vous ressemblez à votre mère, » dit Thérèse. « Vous avez ses yeux. » « Paul Vance m'a dit qu'elle vous adorait. » « Oui, » répondit-il en souriant, « elle était excellente, maman. » Intelligente, exquise, absurde, merveilleusement. Elle avait la folie de l'amour maternel et ne me laissait pas un moment de repos. Elle se tourmentait et me tourmentait. Thérèse regardait un bronze de Carpeaux posé sur le chiffonnier. « Ah, vous reconnaissez, » dit Chartres, « le prince impérial, à ses oreilles en ailes de zéphyr, qui égaye un peu son froid visage. » Ce bronze est un cadeau de Napoléon III. Mes parents allaient à Compiègne. Mon père, pendant le séjour de la cour à Fontainebleau, prit le plan du château et dessina la galerie. Le matin, l'empereur venait en redingote avec une pipe d'écume, se posait près de lui comme un pingouin sur un rocher. Or, ce temps-là, j'étais externe à Bonaparte. J'écoutais ces histoires à table, elles me sont restées. L'empereur se tenait là, tranquille et doux, interrompant son long silence par quelques paroles étouffées sous ses grosses moustaches. Puis il s'animait un peu, expliquait ses idées de machine. Il était inventeur et mécanicien. Alors il tirait un crayon de sa poche et faisait des figures démonstratives sur les dessins de mon père désolé. Il lui gâtait ainsi 2 ou 3 études par semaine. Il aimait beaucoup mon père et lui promettait des travaux et des honneurs qui ne venaient jamais. L'empereur était bon, mais il n'avait pas d'influence, comme disait maman. En ce temps-là, j'étais gamin. Il m'est resté depuis lors une vague sympathie pour cet homme qui manquait de génie, mais dont l'âme était affectueuse et belle, qui portait dans les grandes aventures de la vie un courage simple et un doux fatalisme. Et puis, ce qui me le rend sympathique, c'est qu'il fut combattu et injurié par des gens qui voulaient prendre sa place et qui n'avaient pas même, comme lui, au fond de l'âme, l'amour du peuple. Nous les avons vus depuis au pouvoir. Ciel, qu'ils sont vilains. Le sénateur Loyer, par exemple, qui chez vous, au fumoir, fourrait des cigarettes dans sa poche et m'invitait à faire de même. « Pour la route, » disait-il. « Mais ce Loyer est un méchant homme, dur aux malheureux, aux faibles, aux humbles. Et Garin, est-ce que vous ne lui trouvez pas une âme dégoûtante? Vous vous rappelez, la première fois que j'ai dîné chez vous, on a parlé de Napoléon. » Vos cheveux noués au-dessus de la nuque et traversés d'une flèche de diamant se tordaient avec une violence adorable. Paul Vance a dit des choses subtiles. Garin ne comprenait pas. Vous m'avez demandé mon avis. C'était pour vous faire briller. j'avais déjà l'orgueil de vous. Oh, je n'aurais jamais pu trouver une seule phrase devant des gens si sérieux. Pourtant, j'avais envie de dire que Napoléon III me plaisait mieux que le premier, que je le trouvais plus touchant. Mais peut-être que cette idylle-là aurait produit un mauvais effet. D'ailleurs, je ne suis pas assez dépourvu de tout talent pour m'occuper de politique. Il tournait dans la chambre, regardait les meubles avec une tendresse familière. Il ouvrit un tiroir du secrétaire. « Tenez les lunettes de maman. C'est qu'elle les a cherchées, ces lunettes. Maintenant, je vais vous montrer ma chambre. Si elle n'est pas bien faite, vous excuserez, Madame Fuselier, que j'ai instruite à respecter mon désordre. » Les rideaux des fenêtres étaient baissés. Il ne les releva pas. Au bout d'une heure, elle-même écarta les pans du satin rouge. Des raies de lumière éblouirent ses yeux et se répandirent dans ses cheveux défaits. Elle chercha une glace et ne trouva qu'un miroir de Venise, terne dans sa large bordure d'ébène. Se haussant sur la pointe des pieds pour s'y voir, « Est-ce moi ? » demanda-t-elle, « ce spectre sombre et lointain ? Celles qui se sont mirées dans cette glace n'ont pas dû vous en faire de grands compliments. » Comme elle prenait des épingles sur la table, elle remarqua un petit bronze qu'elle n'avait pas encore vu. C'était un vieil ouvrage italien de goût flamand. Une femme nue, les jambes courtes, le ventre lourd et plissé, qui avait l'air de courir, le bras étendu. Elle trouvait à cette figure un air canaille et drôle. Elle demanda ce qu'elle faisait. « Elle fait ce que fait Madame Mondanité sur le portail de la cathédrale de Bâle. » Mais Thérèse, qui était allée à Bâle, ne connaissait pas Madame Mondanité. Elle examina de nouveau le petit bronze, ne comprit pas et demanda « C'est donc bien inconvenant ? Comment une chose qui se fait sur le portail d'une église peut-elle être difficile à dire ici ?» Et tout à coup, l'inquiétude lui vint. « Mon Dieu, pour que penseront de moi, monsieur et madame Fuselier ?» Puis, découvrant sur le mur un médaillon où de Chartres avait modelé un profil de gamine, amusante et vicieuse, « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Ça, c'est Clara, une petite marchande de journaux de la rue de Mour. Elle m'apportait le Figaro tous les matins. » Elle avait des fossettes aux joues, des nids à baiser. Un jour, je lui ai dit « Je vais te faire ton portrait. » Elle vint un matin d'été avec des boucles d'oreilles et des bagues achetées à la fête de Neuilly. Puis elle ne reparut plus. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle était trop instinctive pour faire une grande cocotte. Voulez-vous que je l'ôte ? Non, non, elle est très bien dans ce coin. Oh, je ne suis pas jalouse de Clara. » Il était temps de rentrer chez elle et ne se décidait pas à partir. Elle noua ses bras autour du cou de son amie. « Oh, je t'aime. Et puis tu as été aujourd'hui riant et gai. La gaieté te va si bien. Tu l'as fine et légère. Oh, je voudrais te rendre toujours gai. J'ai besoin de joie, presque autant que d'amour. Et qui me donnera de la joie ? Si toi, tu ne m'en donnes pas. » Chapitre 27. Depuis son retour à Paris, depuis 6 semaines, Thérèse vivait dans le demi-sommeil ardent du bonheur et prolongeait délicieusement son rêve sans pensée. Elle retrouvait Jacques tous les jours dans la petite maison qu'ombrageait un platane. Et quand ils étaient enfin arrachés l'un de l'autre vers le soir, elle emportait dans son âme des souvenirs adorés. Sa lassitude délicieuse et ses désirs renaissants formaient le feston qui rattachait les unes aux autres les heures d'aimer. Ils avaient tous deux les mêmes goûts. Ils cédaient ensemble aux mêmes fantaisies. Les mêmes caprices les emportaient l'un vers l'autre. Ils se faisaient des joies de courir la campagne équivoque et jolie qui borde la ville, les rues où les cabarets et couleurs lit de vin sont ombragés par des acacias, les chemins pierreux où les orties croissent au pied des murs, les petits bois et les champs sur lesquels s'étend un ciel fin que rayent les fumées des usines. Elle était contente de le sentir près d'elle, dans ces paysages où elle ne se reconnaissait pas elle-même et où elle se donnait l'illusion de se perdre avec lui. Ce jour-là, ils avaient pris par fantaisie le bateau qu'elle avait vu si souvent passer sous ses fenêtres. Elle ne craignait pas d'être reconnue, le danger n'était pas très grand. Et depuis qu'elle l'aimait, elle avait perdu la prudence. Ils virent des bords qui peu à peu riaient, échappant à l'aridité poudreuse des faubourgs. Ils côtoyèrent des îles avec des bouquets d'arbres ombrageant des guinguettes et d'innombrables canots amarrés sous les saules. Ils débarquèrent au bas Meudon. Comme elle dit qu'elle avait trop chaud et qu'elle avait soif, il la fit entrer par une porte de côté dans un cabaret avec chambre meublée. C'était une bâtisse surchargée de galeries de bois que la solitude faisait paraître plus grande et qui sommeillait dans une paix rustique en attendant que le dimanche la remplit des rires des filles, des cris des canotiers, de l'odeur des fritures et du fumet des matelotes. Ils montèrent l'escalier en façon d'échelle qui craquait et dans une chambre du premier étage, une servante leur apporta du vin et des biscuits. Des rideaux de laine recouvraient un lit d'acajou. Sur la cheminée, qui coupait un des angles, se penchait une glace ovale dans un cadre à fleurs. On voyait, par la fenêtre ouverte, la Seine, ses berges vertes, les collines au loin baignées d'air chaud, et le soleil déjà prêt de toucher la cime des peupliers. Au bord de la rivière, les moucherons paraissants menaient leur danse. La paix frémissante d'un soir d'été remplissait le ciel, la terre et l'eau. Thérèse regarda longtemps couler le fleuve. Le bateau passa sur l'eau que broyait son hélice, et les remous du sillage atteignaient la berge, et il sembla que la maison penchée sur le fleuve se balançait comme un navire. « J'aime l'eau, » dit Thérèse en se tournant vers son amie. « Mon Dieu, que je suis heureuse !» Leurs lèvres se rencontrèrent. Abîmés dans le désespoir enchanté de l'amour, le temps n'était plus marqué pour eux que par le frais clapotis de l'eau, qui de 10 minutes en 10 minutes après le passage du bateau venait briser sous la fenêtre entrebâillée. Elle se souleva sur les oreillers, et tandis que ses vêtements, impatiemment jetés, jonchaient le plancher, elle vit dans la glace sa nudité fleurie. Et aux louanges caressantes de son amie, elle répondit « C'est vrai pourtant que je suis faite pour l'amour. » Avec une délicate impudeur, elle contemplait l'image de sa forme dans la lumière vermeille qui avivait les roses pâles ou pourprées des joues, des lèvres et des seins. « Je m'aime parce que tu m'aimes. » Certes, il l'aimait, il ne lui était pas possible de s'expliquer à lui-même pourquoi il l'aimait avec une piété ardente, avec une sorte de fureur sacrée. Ce n'était pas à cause de sa beauté, pourtant si rare, infiniment précieuse. Elle avait la ligne, mais la ligne suit le mouvement et fuit sans cesse. Elle se perd et se retrouve. Cause des joies et des désespoirs esthétiques. La belle ligne, c'est l'éclair qui blesse délicieusement les yeux. On l'admire et l'on s'étonne. Ce qui fait qu'on désire et qu'on aime, c'est une force douce et terrible, plus puissante que la beauté. On trouve une femme entre mille qu'on ne peut plus quitter, dès qu'on l'a possédée et qu'on veut toujours et qu'on veut encore. C'est la fleur de sa chair qui donne ce mal inguérissable d'aimer. Et c'est autre chose encore qu'on ne peut dire, c'est l'âme de son corps. Elle était cette femme qu'on ne peut ni quitter ni tromper. Elle s'écria, joyeuse, « On ne peut pas me quitter, dit !» Elle lui demanda pourquoi il ne faisait pas son buste puisqu'il la trouvait jolie. Pourquoi ? Mais parce que je suis un sculpteur médiocre. Et je le sais, ce qui n'est pas d'un esprit médiocre. Mais si tu veux d'à toute force me croire un grand artiste, je te donnerai d'autres raisons. Pour créer une figure qui vive, il faut prendre le modèle comme une matière vile dont on extrait la beauté, qu'on presse, qu'on broie pour en tirer l'essence. Toi, il n'y a rien dans ta forme, dans ta chair, dans tout toi qui ne me soit précieux. Si je faisais ton buste, je m'attacherais servilement à ces riens qui sont tout pour moi parce qu'ils sont un rien de toi. Je m'y entêterais stupidement et je ne parviendrais pas à composer un ensemble. Elle le regardait un peu surprise. Il reprit. De mémoire, je ne dis pas. J'ai essayé un petit crayon que je porte toujours sur moi. Comme elle voulait absolument le voir, il le lui montra. C'était sur un feuillet d'album une esquisse très simple et très hardie. Elle ne s'y reconnut point, s'y trouva des duretés, une âme qu'elle ne savait pas. Ah, c'est comme cela que tu me vois, c'est comme cela que je suis en toi. Il ferma l'album. Non, c'est un renseignement, une note, voilà tout. Mais je crois la note juste. Il est probable que tu ne te vois pas tout à fait comme je te vois. Toute créature humaine est un être différent, chacun de ceux qui la regardent. Il ajouta avec une espèce de gaieté, « En ce sens, on peut dire qu'une même femme n'a jamais appartenu à deux hommes. C'est une idée de Paul Vance. »« Je la crois vraie, » dit Thérèse. Elle demanda, « Mais quelle heure est-il ? » Il était 7 heures. Elle le pressa de partir. Elle rentrait tous les jours plus tard chez elle. Son mari en avait fait la remarque. Il avait dit « Oh, nous arrivons les derniers à tous les dîners, c'est une fatalité !» Mais attardée tous les jours au palais Bourbon où l'on discutait le budget et absorbée par les travaux de la sous-commission qu'il avait nommée rapporteur, il se faisait lui-même beaucoup attendre et la raison était à couvrait les inexactitudes de Thérèse. Elle le rappela en souriant le soir où elle était arrivée chez Madame Garin à 8h30. Elle craignait de faire scandale, mais c'était le jour de la grande interpellation. Son mari ne vint de la chambre qu'à 9h avec Garin. Ils dînèrent tous deux en veston. Ils avaient sauvé le ministère. Puis elle devint songeuse. « Mais quand la chambre sera en vacances, mon ami, je n'aurai plus de prétexte pour rester à Paris. Déjà, mon père ne comprend pas du tout le dévouement qui me retient ici. Dans 8 jours, il faudra que j'aille le rejoindre à Dinard. Qu'est-ce que je deviendrai sans toi ?» Elle joignit les mains, le regarda avec une tristesse infiniment tendre. Mais lui, plus sombre. « C'est moi, Thérèse, c'est moi qui dois me demander avec inquiétude ce que je deviendrai sans toi. Quand tu me laisses seul, je suis assailli de pensées douloureuses. Les idées noires viennent s'asseoir en cercle autour de moi. » Elle lui demanda quelles idées c'étaient. Il répondit, « Ma bien-aimée, mais je te l'ai déjà dit, il faut que je t'oublie toi-même en toi. » Quand tu seras parti, ton souvenir viendra me tourmenter. Il faut bien que je paie le bonheur que tu me donnes. Chapitre 28. La mer bleue, semée d'écueils roses, jetait mollement sa frange argentée au sable fin de la grève, le long de l'amphithéâtre que terminaient 2 cornes d'or. La beauté du jour mettait un rayon de soleil de la Grèce sur la tombe de Chateaubriand. Dans la chamare à ramages, dont le balcon, par-delà les myrtes et les tamaris du jardin, dominait la plage, l'océan, les îles et les promontoires, Thérèse lisait les lettres qu'elle était allée chercher le matin au bureau de poste de Saint-Malo et qu'elle n'avait pu ouvrir dans le bac chargé de passagers. Tout de suite, après le déjeuner, elle s'était renfermée dans sa chambre Et là, ses lettres déployées sur ses genoux, elle lisait avidement, goûtait en hâte sa joie furtive. Elle devait faire à 2 heures une promenade en maille avec son père, son mari, la princesse Santiamine, Madame Berthier des Ailes, la femme du député, et Madame Raymond, la femme de l'académicien. Elle avait 2 lettres ce jour-là. La première qu'elle eut exhalait une odeur fine et gaie d'amour. Jacques ne s'était jamais montré plus riant, plus simple, plus heureux, plus charmant. Depuis qu'il l'aimait, disait-il, il allait si léger et soulevé d'une telle allégresse que ses pieds ne touchaient plus la terre. Il n'avait qu'une peur, c'était qu'il ne rêvât et qu'il ne vînt à s'éveiller inconnu d'elle. Sans doute, il faisait un songe. Et quel songe! Le pavillon de la Via Alfieri, le cabaret de Meudon, les baisers et ses épaules divines, et toute cette peau où riaient des fossettes, ce corps souple, frais et parfumé comme un ruisseau coulant dans les fleurs. S'il n'était pas le dormeur éveillé, il était l'homme ivre qui chante. Il n'avait plus sa raison par bonheur. Absente, il la voyait sans cesse. Oui, je te vois près de moi, je vois tes cils sur tes prunelles, d'un gris plus délicieux que tout le bleu du ciel et des fleurs, tes lèvres qui ont la chair et le goût d'un fruit merveilleux, tes joues, le rire, mes 2 creux adorés, je te vois belle et désirée, mais fuyante et qui glisse. Et quand j'ouvre les bras, tu t'en es allée, et je te découvre loin, bien loin, sur le long plage blonde, pas plus grande dans ta robe rose et sous ton ombrelle qu'un brin fleuri de bruyère. Oh, toute petite, telle que je t'ai vue un jour, du haut du campanile, sur la place du Dôme à Florence. Et je me dis, comme je me disais ce jour-là, un brin d'herbe suffirait pour me la cacher tout entière, et elle est pour moi l'infini de la joie et de la douleur. Il se plaignait seulement des tourments de l'absence. Et encore, mêlait-il à ses plaintes, les sourires de l'amour heureux. Il la menaçait en plaisantant de l'aller surprendre à Dinard. « Ne crois rien, on ne me reconnaîtra pas, je me déguiserai en marchand de plâtre. Ce ne sera pas mentir. Vêtu d'une blouse grise et d'un pantalon de coutil, la barbe et le visage couverts d'une poussière blanche, je sonnerai à la grille de la Villa Montessui. Tu me reconnaîtras, Thérèse, aux statuettes qui chargeront la planche posée sur ma tête. Toutes seront des amours. Il y aura l'amour fidèle, l'amour jaloux, l'amour tendre, l'amour vif. Il y aura beaucoup d'amour vif. Et je crierai dans la langue rude et sonore des artisans de Pise ou de Florence, « Tutti gli amori per la signora Teresina !» La dernière page de cette lettre était tendre et recueillie. Il s'en échappait des effusions pieuses qui rappelaient à Thérèse les livres de prière qu'elle lisait, enfant. « Je vous aime et j'aime tout en vous, la terre qui vous porte, sur laquelle vous pesez si peu et que vous embellissez, la lumière qui fait que je vous vois, l'air que vous respirez. » J'aime le platane penché de ma cour parce que vous l'avez vu. Je me suis promené cette nuit sur l'avenue où je vous ai rencontré un soir d'hiver. J'ai cueilli un rameau du buis que vous aviez regardé. Dans cette ville où vous n'êtes pas, mais je ne vois que vous. Il lui disait, en finissant, qu'il allait déjeuner dehors. En l'absence de Madame Fuselier, partie la veille pour Nevers, sa ville natale, la marmite était renversée. Il irait dans un cabaret de la rue Royale auquel il était accoutumé. Et là, parmi la foule indistincte, il serait seul avec elle. Thérèse, alanguie par la douceur des caresses invisibles, ferma les yeux et renversa la tête au dossier de son fauteuil. En entendant le bruit du mail qui venait se placer devant le perron, elle ouvrit la seconde lettre. Dès qu'elle en vit l'écriture altérée et les lignes précipitées et tombantes, l'aspect triste et violent, elle se troubla. Le début obscur laissait paraître une angoisse soudaine et de noirs soupçons. Thérèse, Thérèse, pourquoi vous être donnée si vous ne vous donniez pas tout entière? Que me sert-il que vous m'ayez trompée, maintenant que je sais ce que je ne voulais pas savoir? Elle s'arrêta. Ses yeux se voilaient. Elle songea. Mais nous étions si heureux tout à l'heure. Mais qu'est-il arrivé, mon Dieu? Et moi qui me réjouissais de sa joie, quand elle n'était déjà plus. Oh, il vaudrait mieux ne pas écrire, puisque les lettres ne montrent que des sentiments évanouis, des idées effacées. Elle lut plus avant, et voyant qu'il était déchiré de jalousie, elle se découragea. Oh, mais si je ne lui ai pas prouvé que je l'aime de toutes mes forces, que je l'aime de tout moi, mais comment le lui persuader jamais? Et elle avait hâte de découvrir la cause de cette brusque folie. Jacques la disait. Déjeunant dans un cabaret de la rue Royale, il y avait rencontré un ancien camarade qui venait de prendre les eaux et allant à la mer traverser Paris. Ils s'étaient mis à causer ensemble. Le hasard voulut que cet homme, très répandu dans le monde, parlât de la comtesse Martin qu'il connaissait. Et tout de suite, interrompant le récit, Jacques s'écriait « Thérèse, Thérèse, mais à quoi bon m'avoir menti, puisque je devais apprendre un jour ce que j'étais seul à ignorer ? Oh, mais l'erreur vient de moi plus encore que de vous. Votre lettre jetée dans la boîte d'or, Saint-Michel, vos rendez-vous à la gare de Florence, m'aurait assez instruit si j'étais pas obstiné à garder mes illusions au mépris de l'évidence. Je ne voulais pas, non, je ne voulais pas savoir que vous étiez à un autre au moment où vous vous donniez à moi, avec cette grâce hardie, cette volupté charmante dont je mourrais. J'ignorais, je voulais ignorer. Je ne vous demandais plus rien, de peur que vous ne puissiez plus mentir. J'étais prudent. Et il a fallu qu'un imbécile, tout d'un coup, brutalement, devant une table de restaurant, m'ouvrit les yeux et me força à savoir. Oh, maintenant que je sais, maintenant que je ne peux plus douter, il me semble que douter, c'était délicieux. Il a dit le nom que j'avais déjà entendu à Fiesole, et dans la bouche de Miss Bell, et il a ajouté « Mais c'est connu, cette histoire-là. » Ainsi vous l'aimiez, vous l'aimez encore. Et quand, seul dans ma chambre, je mords l'oreiller où tu as mis ta tête, peut-être est-il près de toi? Oh, il y est sans doute. Il va tous les ans aux courses de dinars. On me l'a dit. Je vois tout. Si tu savais les images qui m'obsèdent, tu dirais, il est fou, tu aurais pitié de moi. Oh, que je voudrais t'oublier, toi et tout. Mais je ne peux pas, tu le sais bien, que je ne peux pas t'oublier qu'en toi. Je te vois sans cesse avec lui. C'est une torture. Je me croyais malheureux la nuit, tu sais, sur la mer de l'Arnaud. Mais à ce moment, je ne savais pas même ce que c'est que de souffrir. Aujourd'hui, je le sais. En achevant de lire cette lettre, Thérèse songea. Une parole lancée au hasard l'a mis dans cet état. Un mot l'a jeté dans le désespoir et dans la folie. Elle chercha quel pouvait être le misérable qui avait parlé d'elle de la sorte. Elle soupçonna deux ou trois jeunes gens que le Ménil lui avait présentés autrefois en l'avertissant de se méfier d'eux. Et avec une de ces colères blanches et froides qu'elle avait héritées de son père, elle se dit « Oh, je le saurai !» En attendant, que faire? Son ami, désespéré, fou, malade, elle ne pouvait courir à lui, l'embrasser, se jeter sur lui avec un tel abandon de la chair et de l'âme qu'il sentit qu'elle était à lui tout entière et qu'il fut forcé de croire en elle. Écrire. Mais comme il eût mieux valu l'aller trouver et tomber muette sur son cœur, et après lui dire « Ose croire encore que je ne suis pas tout à toi seul ?» Mais elle ne pouvait que lui écrire. Elle avait à peine commencé sa lettre quand elle entendit des voix et des rires dans le jardin. Déjà la princesse Seniavine se suspendait à l'échelle du mail. Thérèse descendit et se montra sur le perron, tranquille, souriante. Son large chapeau de paille, couronné de coquelicots, jetait sur son visage une ombre transparente où brillaient ses yeux gris. « Mon Dieu, qu'elle est jolie !» s'écria la princesse Seniavine. « Et quel dommage qu'on ne la voie jamais !» Dès le matin, elle passe le bac et trotte dans les ruelles de Saint-Malo. L'après-midi, elle s'enferme dans sa chambre. Elle nous fuit. Le mail contournait le large cercle de la grève au pied des villas et des jardins étagés sur le flanc de la colline. Et l'on voyait, à gauche, les remparts et le clocher de Saint-Malo sortir de la mer bleue. Puis il s'engagea dans une route bordée de haies vives, le long desquelles passaient des femmes de dinar, droites sous leurs larges coiffes de batiste aux ailes flottantes. « Malheureusement, dit Madame Raymond, assise sur le siège à côté de Montessuie, les vieux costumes se perdent, c'est la faute des chemins de fer. »« Il est vrai, dit Montessuie, sans les chemins de fer, les paysans porteraient encore leurs costumes pittoresques d'autrefois, mais nous ne les verrions pas. » « Mais qu'importe, répliqua Madame Raymond, nous les imaginerions. »« Mais, demanda la princesse Seniavine, est-ce que vous voyez quelquefois des choses intéressantes ? Moi, jamais. » Madame Raymond, qui avait pris dans les livres de son mari une vague tonne de philosophie, déclara que les choses n'étaient rien et que l'idée était tout. Sans regarder Madame Berthier des ailes, assise à sa droite sur la deuxième banquette, la comtesse Martin murmura « Oh oui, les gens ne voient que leur idée, ils ne suivent que leur idée. Ils sont aveugles, sourds, ils vont ainsi, on ne peut pas les arrêter. » « Mais ma chère, dit le comte Martin, placé devant elle, à côté de la princesse, sans idée conductrice, on dirait au hasard. À propos, avez-vous lu, Montessuie, le discours prononcé par Loyer à l'inauguration de la statue de Cadégasicourt ? Oh, le début est remarquable. Loyer ne manque pas de sens politique. » La voiture, ayant traversé les plaies bordées de saules, gravit une côte et s'avança sur un vaste plateau boisé. Longtemps, elle longea le mur d'un parc. La route cheminait à perte de vue sous son ombre humide. « C'est le Guéric ?» demanda la princesse de Siinvine. Tout à coup, entre deux piliers de pierre surmontés de lions, se dressa, sous sa couronne de fer à quatre fleurons, la grille fermée. À travers les barreaux, on découvrait au bout d'une profonde allée de tilleuls les pierres grises du château. « Oui, dit Montessuie, c'est le Guéric !» s'adressant à Thérèse. « Tu as bien connu le marquis de Ré. À 65 ans, il avait gardé sa force, sa jeunesse. Il faisait la mode, décidait des élégances et était aimé. Les jeunes gens copiaient sa redingote, son monocle, ses gestes, son insolence exquise, ses manies abusantes. Tout à coup, il abandonna le monde, ferma son hôtel, vendit son écurie et ne se montra plus. Tu te rappelles, Thérèse, sa brusque disparition ? Tu étais mariée depuis peu de temps. Il allait te voir assez souvent. Et un jour, on apprit qu'il avait quitté Paris. C'est ici, au Guéric, qu'il était allé en plein hiver. On chercha les raisons de cette retraite subite. On pensa qu'il avait fui sous le coup de quelques chagrins dans l'humiliation d'un premier échec, et de peur qu'on ne le vit vieillir. La vieillesse, voilà ce qu'il redoutait le plus. Le fait est que depuis 6 ans qu'il est retiré, il n'est pas sorti une seule fois de son château et de son parc. Il reçoit au Guéric 2 ou 3 vieillards qui furent les compagnons de sa jeunesse. Cette grille ne s'ouvre que pour eux. Depuis sa retraite, on ne l'a jamais vu, on ne le verra jamais. Il met à se cacher l'énergie qui lui vient apparaître. Il n'a pas souffert qu'on épiât son destin. Il est mort vivant. Je trouve pas cela méprisable. » Et Thérèse, se rappelant l'aimable vieillard qui avait voulu finir glorieusement par elle sa vie galante, tourna la tête et regarda le guéric, dressant sur les cimes grises des chênes ses quatre tours en poivrière. Au retour de la promenade, elle dit qu'elle avait la migraine et qu'elle ne pourrait pas dîner. Elle s'enferma dans sa chambre et tira de son coffre à bijoux la lettre désolante. Elle relut la dernière page. « La pensée que tu es à un autre me brûle et me déchire, et puis je ne voulais pas que ce fût celui-là. » C'était une idée fixe. Il avait mis trois fois sur le même feuillet ces mots « Je ne voulais pas que ce fût celui-là. » Elle aussi n'avait qu'une idée, ne pas le perdre. Et pour ne pas le perdre, elle eut tout dit, tout fait. Elle se mit à sa table, écrivit, dans l'élan d'une tendre et plaintive violence, une lettre où elle répétait comme un gémissement « je t'aime, je n'ai jamais aimé que toi. Tu es seul, seul, entends-tu, dans mon âme, dans tout moi. N'écoute pas un misérable, écoute-moi, moi. Je n'ai jamais aimé personne, je te jure, personne avant toi. » Tandis qu'elle écrivait, le soupir immense et léger de la mer accompagnait le soupir de sa poitrine. Elle voulait, croyait dire des paroles véritables. Et tout ce qu'elle disait était vrai de la vérité de son amour. Elle entendit le pas pesant et sûr de son père dans l'escalier. Elle cacha sa lettre et ouvrit la porte. Montessui, très câlin, lui demanda si elle n'allait pas mieux. « Je venais, lui dit-il, te souhaiter le bonsoir et te demander une chose. Il est probable que je trouverai demain le Ménil aux courses. Il y va tous les ans. C'est un homme d'habitude. Si je le rencontre, vois-tu, mignonne, un inconvénient, est-ce que je l'invite à passer quelques jours ici ? Ton mari pense qu'il sera pour toi une distraction agréable. Nous pourrions lui donner la chambre bleue. » « Comme tu voudras. Mais j'aimerais bien que tu gardes la chambre bleue pour Paul Vance, qui a très envie de venir. Bon, il est possible aussi que Choulette arrive sans avertir, ou c'est assez son habitude. On le verra un matin sonnant comme un pauvre à la grille. Tu sais, mon mari se trompe quand il croit que le Ménil m'est agréable. Et puis, il faut, la semaine prochaine, que j'aille passer deux ou trois jours à Paris. »